Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique à la une de l'actualité en ce mercredi 24 janvier 2024. L'ancien président américain Donald Trump remporte la primaire républicaine du New Hampshire contre sa rivale Nikki Haley. En tournée sur le continent africain, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken appelle à lutter contre l'extrémisme au-delà de l'approche militaire. Ailleurs en Afrique, des villageois ont été massacrés par un groupe armé dans l'ouest de la RD Congo sur fond de violences communautaires. Du football également au sommaire. Avec la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun arrache sa qualification pour les huitièmes de finale, tout comme la Guinée, l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie, tombeuses de l'Algérie, à nouveau éliminées dès le premier tour. C'est justement avec ce tournoi de foot africain que nous ouvrons cette édition du Monde aujourd'hui. Nous nous rendons à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire pour retrouver nos envoyés spéciaux Bagassi Koura et Yacouba Ouedraogo pour un nouveau numéro du journal de la CAN.
La CAN 2023 ne cesse de surprendre. Après l'élimination du Ghana, c'est au tour de l'Algérie d'être boutée hors de la compétition par la Mauritanie. Vainqueur hier face au Fennec 1-0 dans le groupe D. Au même moment, l'Angola s'imposait face au Burkina Faso 2-0 au stade Charles Konabani de Yamoussoukro. Avec 7 points, les Palancas Negras finissent premier devant les étalons, deuxième avec 4 points. Certains supporters burkinabés se disent déçus.
Une défaite un peu amère, bien qu'on soit qualifié quand même pour les huitièmes de finale. Bon, mais maintenant, tout dépend de quel adversaire on va tomber sur quel adversaire. Mystère, boule de gomme.
Je suis un peu triste parce que, bon, chaque match, on doit avoir une victoire. Voilà, donc à ce moment-là, bon, on a qualifié, mais on voulait être le premier de poule, quoi.
La Mauritanie est troisième de la poule D avec 3 points et reste en embuscade pour une éventuelle place de meilleur troisième. Les champions 2019 algériens finissent dernier de la poule avec seulement 2 points. Dénouement aussi dans la poule C, celle du champion en titre. Le Sénégal finit en beauté en dominant la Guinée 2-0, ce qui lui fait 9 points pris en 3 matchs.
Forcément une grosse satisfaction, satisfait de mes joueurs, satisfait des garçons. On a eu une très bonne préparation depuis le 29 décembre. Vraiment, on est ensemble. Nous savons que c'est un groupe très compliqué. D'ailleurs, beaucoup disaient que c'était le groupe de la mort, la malédiction, comme on dit, du champion. Donc aujourd'hui, je pense qu'en 3 matchs, on a pu montrer que on était capable de ne pas dormir sur nos lauriers, malgré qu'on est champion d'Afrique. Mais comme je le dis, vraiment satisfait du rendement sur ces 3 matchs-là.
Aliou Cissé, sélectionneur des Lions de la Teranga. Pour le coach guinéen Kaba Diawara, ce derby ouest-africain a répondu aux attentes.
Ben, c'était un match avec beaucoup d'intensité et c'était un derby, donc ça a un peu chauffé. Il y avait un peu de nervosité alors qu'on était tous les deux qualifiés. Donc bon, c'est un petit peu dommage pour l'image, mais après, clair de constater que ben voilà, ils nous ont battus, ils ont marqué 2 buts. On a bien appris ce soir.
Les Guinéens sont sûrs d'accrocher une place de meilleur troisième qualificatif pour les huitièmes. Toujours dans ce même groupe C, le Cameroun a arraché une précieuse victoire 3-2 contre la Gambie et se classe deuxième, suffisant pour voir les huitièmes.
Vous voyez même que j'ai plus de voix. J'ai plus de voix parce que c'est trop d'émotions. Et je suis satisfait de la performance de mes joueurs. Et je pense, je l'ai dit hier en conférence de presse, que peu... On devait tout faire pour prendre les 3 points. Peu importe comment on allait jouer, mais il fallait qu'on puisse les prendre et ça a été fait. L'objectif, il a été atteint, mais c'est pas fini encore.
Rigobert Song, sélectionneur du Cameroun. C'était mon dernier match comme coach de la Gambie, a annoncé de son côté le sélectionneur belge des Scorpions gambien Tom Saint-Fiette. Ce mercredi, on connaîtra tous les 16 pays qualifiés pour les huitièmes. Dans le groupe E, le Mali, leader avec 4 points, voudra se détacher de la Namibie, qui compte 3 points. Éric Chekouchel, sélectionneur des Aigles du Mali.
Il y a 3 points en jeu. Le but du jeu, c'est de viser les trois points et de faire un bon match pour rester dans la continuité de ce qu'on fait depuis le début. Après, le choix tactique, les turnovers, le système de jeu, ça va dépendre de beaucoup de choses et notamment de la fin de mon analyse de cette équipe de la Namibie. Les joueurs vont bien, je pense qu'ils sont concentrés, sont contents d'être là ensemble.
Toujours dans ce même groupe E, l'Afrique du Sud défie la Tunisie. Dans la poule F, la RDC, 2 points, affronte la Tanzanie. Et le Maroc, leader avec 4 points, joue face à la Zambie, 2 points pris en seulement 2 matchs nuls. Les Lions de l'Atlas disent vouloir finir le boulot. Walid Regragui, coach du Maroc.
On voulait se qualifier rapidement. On ne l'a pas fait sur le match de la RDC en prenant 6 points, mais les matchs d'hier nous ont permis d'être qualifiés avant le troisième match. Donc c'est positif, c'est-à-dire qu'on devient régulier dans cette CAN à passer le premier tour, ce qui était rare il y a pratiquement 10 ou 15 ans.
Bagassi Koura, Yacouba Ouidraogo, Yamoussoukro pour VOA Afrique.
Ici, aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a remporté la primaire républicaine dans le New Hampshire hier soir face à sa rivale Nikki Haley, l'archi-favori de la droite américaine, se rapproche donc un peu plus d'un match retour contre le président Joe Biden à l'élection de novembre prochain. Davantage avec Nanit Talani.
Donald Trump, déjà vainqueur de la première des primaires dans l'Iowa la semaine dernière, fait ainsi un pas supplémentaire vers l'investiture de son parti pour la prochaine présidentielle. L'ex-ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley, 52 ans, a certes félicité M. Trump pour sa victoire dans le New Hampshire, où elle a nombre de partisans, mais elle a aussi affirmé que la course est loin d'être terminée. Elle a par ailleurs averti les républicains qu'une investiture de Trump serait une victoire pour Biden le 5 novembre prochain. Depuis sa défaite en 2020, qu'il n'a jamais reconnu face au président Biden, et alors qu'il fait face cette année à 4 procès au pénal, Donald Trump est déterminé à prendre sa revanche en novembre sur son rival démocrate. « Ils vont tous de nouveau voter pour moi. Biden est le pire président de l'histoire de ce pays », avait lancé M. Trump près d'un bureau de vote du New Hampshire qui organisait des primaires pour les deux partis, républicains et démocrates. Pour affronter le président sortant, il faudra que Donald Trump soit investi cet été par la convention de son parti au terme de toutes les primaires dans les États américains face à son unique concurrente encore en lice, Nikki Haley. Avec sa victoire dans le New Hampshire, Donald Trump a quasiment scellé son investiture pour la présidentielle de novembre, a estimé l'équipe de campagne de son rival démocrate, l'actuel président Joe Biden.
Côté démocrate, justement, le président Biden a lui aussi engrangé une victoire dans le New Hampshire hier soir. Il a remporté la primaire démocrate alors qu'il ne figurait même pas sur les bulletins de vote en raison d'un désaccord avec l'antenne locale de son parti sur le calendrier électoral. Après la victoire de son rival Donald Trump, Joe Biden avertit dans un communiqué que la démocratie est en jeu. Ailleurs dans l'actualité, au Nigeria hier, le patron de la diplomatie américaine a appelé à lutter contre l'extrémisme au-delà d'une approche strictement militaire. Avant de poursuivre sa tournée africaine en Angola, Anthony Blinken s'est entretenu avec le chef de l'État nigérian, Bola Tinubu, élu l'an dernier. Monsieur Blinken a proposé une assistance américaine élargie en matière de sécurité, mais a déclaré qu'il fallait une approche globale près d'un an après que l'armée a renversé le président élu du Niger, Mohamed Bazoum, et alors que la Russie et la Chine progressent dans la région. Cette approche inclusive avait abouti à des résultats au Niger lors du mandat de Monsieur Bazoum, a déclaré Anthony Blinken. Partout où il y a eu un changement inconstitutionnel de direction, les choses n'ont fait qu'empirer, a-t-il ajouté. Toujours au Nigeria, un couvre-feu a été décrété hier dans une partie de l'État du Plateau après de nouvelles attaques meurtrières perpétrées sur le territoire depuis le mois de décembre. Les précisions avec Dili Diko.
Caleb Moutfouant, gouverneur de l'État du Plateau, a ordonné un couvre-feu de 24 heures dans le district de Mangou afin de lutter contre l'insécurité dans la zone, a déclaré son porte-parole Giang Berry. Il a ajouté « Seules les personnes avec des fonctions essentielles sont autorisées à se déplacer dans la zone jusqu'à nouvel ordre ». Les autorités locales n'ont pas donné de détails sur les dernières violences qui les ont poussées à instaurer le couvre-feu. Un habitant, Joseph Moses, a indiqué que des dizaines de maisons, des lieux de culte et d'autres bâtiments ont été incendiés. Un imam, Abdoulaye Maïsahé, a déclaré qu'au moins 6 personnes ont été tuées dans sa communauté. Le général de brigade, Gagji Chipi, a affirmé que les violences ont éclaté suite à un différend entre un éleveur musulman peul et un habitant de la région au sujet du pâturage du bétail. L'état du plateau, dans le centre du pays, connaît souvent des violences entre agriculteurs et éleveurs autour de l'exploitation de la terre et de l'eau.
Ce nouveau drame en République démocratique du Congo, une dizaine de civils ont été tués par des miliciens dans l'ouest du pays hier, une région en proie à un conflit à caractère communautaire. Les détails avec Antoine Abolamba.
Ils ont tué 11 personnes, dont 3 femmes, dans le village de Fadiaka, dans le sud du territoire de Kwamout, de la province du Maïndombe, a déclaré Guy Moussomo, député de Kwamout, en accusant des miliciens Mobondo d'être les auteurs de l'attaque. Selon lui, les miliciens, armés de machettes et de fusils, sont allés massacrer la population quand ils ont vu que les militaires avaient quitté les lieux pour une opération dans un autre secteur. Gary Sakata, député national du territoire voisin de Bagata, dans la province voisine du Kwilu, livre le même bilan et demande aux autorités des mesures urgentes pour imposer la paix dans la région. Des violences communautaires ont éclaté en 2022 dans cette province autour d'un conflit foncier entre les Teke et les Yaka venus s'installer après eux. Présentés comme membres de la communauté Yaka, les Mobondo sont accusés de prendre une part active dans ces violences qui ont déjà fait des centaines de morts.
Au Mali, un ancien ministre et des cadres de la Société d'énergie nationale ont été inculpés et mis sous mandat de dépôt par la Cour suprême pour atteinte aux biens publics dans une affaire de malversation présumée. Alexandrine Rolognon nous en dit plus.
Les 13 personnes ont été inculpées pour faux, usage de faux, atteinte aux biens publics dans une affaire d'achat de groupes électrogènes pour fournir l'électricité. Parmi elles figurent l'ex-ministre des Mines et de l'Énergie, Lamine Seydou Traoré, 2 anciens directeurs de la Société nationale d'énergie du Mali, plusieurs employés de la même société, ainsi que des opérateurs économiques. La dégradation de la fourniture d'électricité suscite une large exaspération parmi les 11 millions de Maliens depuis plusieurs années. La société EDMSA croule sous le poids d'une dette de plus de 200 milliards de francs CFA et n'arrive plus à assurer la couverture en électricité de la capitale et d'autres localités maliennes. Le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a promis d'améliorer la fourniture de l'électricité. Le 15 janvier, lors d'une cérémonie traditionnelle de vœux, il a affirmé qu'il resterait intransigeant dans la lutte contre la corruption.
Le Burkina Faso a ouvert hier une usine de traitement des résidus miniers. C'est une première dans ce pays producteur d'or. Davantage avec Mohamedou Oumfa.
L'inauguration de cette usine, érigée dans la zone industrielle de Kossodo, en périphérie de Ouagadougou, s'est faite en présence du président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Les machines ont été entièrement construites ici. Je peux affirmer sans me tromper que le Burkina Faso est le 2e pays en Afrique à développer cette technologie, a-t-il soutenu, tout en saluant l'ingéniosité de cette révolution burkinabé. C'est une évolution positive du contexte de souveraineté et donc de prise en main de nos ressources, a-t-il indiqué, invitant d'autres pays africains à migrer vers le Burkina Faso avec les résidus miniers. L'usine a été mise au point par des experts locaux pour traiter les métaux contenus dans les résidus de mine d'or, a de son côté indiqué Joachim Marie-Emmanuel Tapsoba, président directeur général de Golden Hand, la société qui exploite l'usine. La mise en place de cette usine permettra au Burkina Faso de traiter sur place et d'avoir un contrôle total sur les résidus miniers qu'ils exportaient pour le traitement, selon les responsables de l'usine.
L'armée israélienne, qui a subi cette semaine sa plus lourde perte humaine quotidienne depuis le début de son offensive à Gaza, bombarde ce mercredi le secteur de Khan Younes sur fond de pourparlers sérieux en vue d'une trêve. Une délégation du Hamas palestinien est arrivée au Caire hier pour discuter avec le chef de renseignements égyptien d'une nouvelle proposition de cesser le feu, selon une source proche des négociations. Le tout alors que Brett McGurk, conseiller du président américain Joe Biden pour le Moyen-Orient se trouve au Caire pour discuter d'une pause dans les hostilités et de la libération des otages, selon Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Jacques Aristide, toujours avec vous. Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui se poursuit avec le segment magazine. Et pour démarrer, retour sur le périple africain du secrétaire d'État américain. Avant de s'envoler pour le Nigeria et l'Angola, Anthony Blinken a d'abord effectué un bref arrêt au Cap-Vert et s'est ensuite rendu en Côte d'Ivoire. Justement, à Abidjan hier, aux côtés du président Alassane Ouattara, le chef de la diplomatie américaine a salué l'approche ivoirienne dans la lutte contre le djihadisme qui frappe un nombre de pays ouest-africains. Ange Nomenio, notre correspondant sur place, nous propose ce compte-rendu.
Anthony Blinken a finalement rencontré le président Alassane Ouattara à sa résidence de Cocody-Riviera. Les deux hommes ont parlé de plusieurs sujets qui concernent la Côte d'Ivoire et les États-Unis. C'est la sécurité qui a d'abord été abordée par le secrétaire d'État américain au sortir de cette audience. La santé et le secteur privé ont également été mentionnés par le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain.
Nous avons pris note du très important leadership du président dans d'autres questions régionales. La Côte d'Ivoire, c'est un leader en Afrique de l'Ouest et sur le continent, de tant de manières différentes. Et nous le ressentons dans notre partenariat. Nous nous tournons vers la Côte d'Ivoire pour obtenir des conseils, pour collaborer, j'espère que nous apprenons effectivement l'un de l'autre.
Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire.
Nous avons reconfirmé le partenariat exceptionnel entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, que ce soit dans le domaine des échanges, dans le domaine de la santé, de la sécurité alimentaire, de la digitalisation. C'est vraiment quasiment dans tous les secteurs.
Tout juste après cette rencontre, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba, a donné une conférence de presse au cours de laquelle elle est revenue sur les grands axes de la visite du secrétaire d'État américain. Pour la représentante des États-Unis en Côte d'Ivoire, la collaboration entre les deux pays se porte à merveille. Jessica Davis-Ba, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire.
Donc quand on a le succès, on partage ce succès. Et ça, c'était vraiment le message de cette visite. Il y avait une grande partenariat dans tous les domaines, dans tous les secteurs où les investissements de gouvernement.
En matière de sécurité, les États-Unis se sont particulièrement illustrés par un appui logistique et financier. L'opération Flintlock en est un bel exemple. En 2023, quelques 1300 soldats de 29 pays se sont entraînés à la lutte anti-djihadiste lors de formations données au Ghana et en Côte d'Ivoire. Sous commandement américain, cette opération avait pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles des armées africaines dans la lutte anti-djihadiste. Lassina Djoumbia, chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire.
Flintlock nous permet de mieux nous connaître, d'apprendre à travailler ensemble et d'être beaucoup plus efficace lorsque nous nous retrouvons ensemble sur le terrain dans le cadre de coalitions ou d'opérations conjointes.
D'autres pans de collaboration comme le commerce et la santé ont été abordés par le secrétaire d'État américain lors de sa visite. Ange Bijounamayan pour VOA Afrique, Abidjan.
Nous vous le disions hier, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a demandé au président de la République démocratique du Congo de répondre aux préoccupations soulevées par sa réélection. Félix Tshisekedi, largement vainqueur de la présidentielle de décembre dernier, qualifié de simulacre par l'opposition, a prêté serment il y a 4 jours à Kinshasa pour un second mandat de 5 ans dans un climat politique et sécuritaire tendu. Quels sont justement les défis que doit relever le chef de l'État congolais durant son nouveau quinquennat ? Antoine Roger Bolamba s'est entretenu avec l'analyste politique Gaucher Kizito, basé dans la ville de Butembo, dans le Nord Kivu.
Ces défis, c'est dans tous les secteurs de la vie publique, du point de vue social, du point de vue économique, du point de vue politique, et du point de vue culturel et du point de vue social. et je vais particulièrement pour la partie de l'Est relever les défis sécuritaires. Les défis sécuritaires depuis 1996 et depuis 1997, la partie Est de la République démocratique du Congo connaît des mouvements subversifs et ces mouvements subversifs qui parfois remettent en cause l'autorité de l'État, qui remettent en cause l'autorité des gouvernants, qui remettent en cause peut-être les segments même structurels de notre République, de la République démocratique du Congo, et les défis persistent jusqu'à l'heure qu'il est.
La grande question par rapport à cela, a-t-il les moyens de répondre à ces défis?
A-t-il les moyens? Je pense bien. Constitutionnellement, il est le garant de l'unité nationale et c'est lui qui a la responsabilité première d'assurer l'intégrité territoriale de notre État. Il a les moyens parce qu'il est investi de ce pouvoir par le peuple qu'il a élu massivement. C'est un poids, c'est un moyen politique important. Il a les moyens parce qu'il a un appareil sécuritaire qui doit bien sûr consolider davantage. Il a les moyens parce qu'il a un budget qui a été voté et un budget dans lequel la proportion qui revient au secteur sécuritaire a été augmentée.
Connaît-il quand même le nombre de ces chômeurs à qui il doit promouvoir un peu en donnant du travail?
Oui, c'est une question importante. Le taux de chômage, il est élevé, mais à mon humble avis, je pense que les services de l'État, ils auront certainement du mal à pouvoir chiffrer très exactement le taux de chômage. Mais peut-être pour les dire à la suite de certaines observations que nous faisons par-ci par-là, comme je suis par exemple à l'université, la plupart des finalistes qui terminent, c'est-à-dire dans beaucoup de facultés, que ce soit la faculté de sciences économiques, la faculté de droit, la faculté de médecine, la faculté de psychologie, toutes les facultés possibles, que ce soit au niveau national, beaucoup de ces finalistes n'ont pas la possibilité d'avoir l'emploi. Et qu'est-ce qu'ils font? Parfois, ils entreprennent carrément des activités privées. Et c'est effectivement ce qu'il a dit. Il va mettre tout le moyen possible pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat.
L'analyste politique Gauche Kizito était en ligne de Butembo en RD Congo. Le Burkina Faso a adopté une nouvelle orientation diplomatique depuis que le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir par un coup d'État il y a un peu plus d'un an maintenant. Le pays cherche à diversifier ses partenaires depuis sa rupture avec la France. À la fin de l'année dernière, la Russie a rouvert à son ambassade à Ouagadougou, poursuivant ainsi un rapprochement avec l'État sahélien. De la capitale burkinabé, le reportage de notre correspondant Gilles Dasda.
Après 31 ans de fermeture, l'ambassade de Russie rouvre ses portes à Ouaga. Nous sommes en décembre dernier. Ce tournant vient confirmer l'intensification des relations Burkina-Russie. Depuis son coup d'État, le capitaine Traoré s'est fortement rapproché du pays de Poutine pour une principale raison que nous explique le professeur Ousseini Ili, juriste, enseignant-chercheur et analyste des questions géopolitiques.
Comme le Burkina a eu des difficultés avec les partenaires traditionnels, notamment la France, pour les questions d'équipement, naturellement aujourd'hui ce qui intéresse le Burkina, c'est tout ça, puisque la Russie est moins procédurière ou tatillonne par rapport aux questions d'armes et autres.
Désarmement, le Burkina va en acquérir, notamment grâce à la Russie. Pour accroître son influence dans des zones comme le Sahel, la Russie de Poutine va se servir du cyberespace, singulièrement les trolls. Sur les réseaux sociaux, Aruna Drabo, analyste des questions de désinformation au Sahel, en a une bonne connaissance.
Les trolls, déjà, c'est un individu ou encore un groupe d'individus qui font des publications à provocation intentionnelle pour susciter des polémiques, pour créer des tensions. Ils font recours à la technologie. Donc, ils créent également des faux comptes, ce que nous qualifions de bots. Et ces faux comptes-là les aident dans l'amplification des contenus qu'ils diffusent. Facilement, une publication peut générer 2000 commentaires, 1000 partages, 5000 likes.
Des publications virales qui s'attaquent non seulement aux idéologies, mais aussi aux personnes. Il y a peu, accusé par un faux article de presse d'avoir été arrêté pour implication dans un coup d'État, un ancien ministre de la Défense du Burkina a dû porter plainte. Début 2023, une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans ce dessin animé, Wagner est présenté en sauveur du Burkina et du Mali face à des agresseurs français. La guerre d'influence bat son plein sur le cyberespace et de nouvelles applications viennent l'amplifier. Les trolls ont encore de beaux jours devant eux. Tout le monde peut donc parler et peut chercher à différencier le vrai du faux.
On a une population en majorité non alphabétisée qui ne sait pas lire et écrire en français. Donc quand on était seulement sur Facebook, Twitter, et ils sont à la périphérie des discussions. Ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas commenter. Mais avec les messageries, les WhatsApp, les Telegram, tu appuies, tout le monde parle. Donc on a facilement des citoyens influenceurs.
Depuis l'arrivée du capitaine Traoré au pouvoir, l'influence russe est perceptible. Pour le professeur Illy, cela s'explique par la crise sécuritaire que traverse le Burkina.
Ce côté où la Russie accorde plus de facilité en matière d'acquisition d'armes, bien apprécié par les pays qui sont en crise, qui sont à la recherche d'armes d'ailleurs, pour mieux se défendre.
Visite de hauts responsables militaires venus de Moscou, réouverture de l'ambassade russe à Ouaga, présence de drapeaux russes aux côtés de ceux des pays de l'AES aux différents ronds-points de Ouaga. Rarement le Kremlin aura eu autant d'influence au Burkina. Une influence grandissante, accentuée par le fait des réseaux sociaux. Gildas Da, Ouagadougou, VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le droit à l'avortement va être au programme à des élections de novembre prochain, affirme la Maison-Blanche. La vice-présidente Kamala Harris sillonne le pays pour étendre la campagne du président Joe Biden à la protection aux droits reproductifs. Les candidats républicains évoquent de possibles interdictions fédérales de l'avortement. Le choix final sur cette question sensible revient donc aux électeurs. Le reportage d'Anita Powell est relaté par Alexandrine Rolognon.
Alors que la course à la présidence américaine s'intensifie, les candidats font comprendre aux électeurs que l'avortement est une question clé. Lundi, à l'occasion du 58e anniversaire de l'arrêt Roe v. Wade, qui a protégé le droit à l'avortement au niveau fédéral, la vice-présidente Kamala Harris s'est rendue dans le Wisconsin pour souligner le soutien de l'administration Biden au plein accès aux soins reproductifs, y compris à l'avortement.
En Amérique, la liberté ne se donne pas. Elle ne doit pas être accordée. Elle nous revient de droit. De droit. Et cela inclut la liberté de prendre des décisions concernant son propre corps. Ce n'est pas le gouvernement qui vous dit ce que vous devez faire.
Le président Joe Biden, catholique dévoué depuis toujours, a exprimé des réserves personnelles sur l'avortement. Lundi, il a toutefois qualifié d'injuste la décision prise par la Cour suprême en 2022 d'annuler l'arrêt Roe v. Wade et de renvoyer la question aux États fédérés. Depuis cette décision de la Cour, les électeurs des différents États ont voté à plusieurs reprises en faveur de l'accès à l'avortement.
Les électeurs ont voté pour protéger les droits reproductifs. Nous avons besoin de ces protections dans tous les États, car l'accès de votre famille aux soins de santé ne devrait pas dépendre de votre code postal.
Les partisans du principal candidat républicain à la présidence, Donald Trump, affirment que ce dernier s'oppose à l'avortement, mais sa position a varié et n'est pas claire. Le site web de sa campagne n'aborde pas la question. Une demande de commentaire n'a pas eu de réponse immédiate. Le président républicain de la Chambre des représentants a donné une tournure personnelle à son opposition lors d'un récent rassemblement contre l'avortement à Washington, où il a déclaré être le fruit d'une grossesse non planifiée d'une adolescente. Mike Johnson, président de la Chambre des représentants des États-Unis.
Nous adoptons ces projets de loi et nous manifestons aujourd'hui parce qu'il faut beaucoup de travail pour convaincre les gens que chaque enfant humain, chaque enfant à naître, a une valeur trop profonde et trop précieuse pour être ignorée. Et nous avons toutes les raisons d'être optimistes. Mes amis, nous pouvons changer l'opinion publique.
Les militants anti-avortement se réjouissent que la Cour suprême ait remis la décision entre les mains des États. Mais ils doivent maintenant décider quel leader national fera avancer le dossier. Le militant Eric Scheidler, qui s'est joint à la marche de Washington, a déclaré que M. Biden était trop extrême dans son soutien à l'accès à l'avortement, mais qu'aucun des autres républicains ne correspondait à sa vision du monde. Le droit à l'avortement a gagné dans les urnes auprès des électeurs d'État allant de la Californie libérale au Kansas conservateur. L'Ohio, État pivot, a été le dernier en date puisqu'il a approuvé à 57% un amendement constitutionnel visant à garantir l'accès à l'avortement à la fin de l'année dernière. Les électeurs américains auront leur mot à dire en novembre prochain.
C'est ici que nous allons clore Le Monde aujourd'hui, édition matinale du mercredi 24 janvier 2024. La mise en onde a été assurée par Firmin Koyaweda, à la technique Calvin Fowler. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente journée s'il vous plaît. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt. Au revoir.